Madame la préfète, monsieur le préfet, mesdames, messieurs les sous-préfets et sous-préfètes, monsieur le ministre et député, madame la députée, mesdames et messieurs les présidents de PETR, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, nous ne nous quittons pas. Mais ce faisant, cela montre l'implication de la Caisse des dépôts et son engagement aux côtés de la ruralité et aussi aux côtés des collectivités en général, puisque nous avons ensemble signé le pacte État-Métropole à Montpellier, le pacte État-Métropole à Toulouse, les contrats de plan État-Région et de nombreux contrats de ruralité, soi-disant publiquement remerciés. Bien sûr, c'est un bonheur que d'être parmi vous ce matin, tant d'amis dans cette salle, et au-delà, nous sommes, Madame la Préfète, Monsieur le Préfet, dans l'exceptionnel. L'exceptionnel parce que 5 contrats de ruralité d'un coup, c'est bien une première. L'exceptionnel parce que les Hautes-Pyrénées sont couverts totalement par des PETR. Et c'est la bonne dimension pour contractualiser dans le cadre des contrats de ruralité. Un PETR regroupe plusieurs communautés de communes. Et d'ailleurs, bravo pour le travail que vous avez réalisé ici dans le cadre du schéma départemental intercommunalité. Vous êtes quasiment passé de presque 30 interco à 9, donc vous avez remarquablement rationalisé tout cela. Mais le PETR regroupe, disais-je, plusieurs communautés de communes et permet donc d'avoir sur un espace suffisamment important des politiques structurantes et une vision globale de l'approche que l'on doit avoir pour ces pays, désormais appelés pôles, mais j'aime davantage l'appellation pays, parce que à nous, les Occitans, ça nous parle bien, le pays. Donc oui, nous sommes dans l'exception, et c'est pour cela que mon bonheur est total d'être parmi vous ce matin, et ce d'autant plus que nous sommes aussi, j'ai envie de dire, dans des travaux pratiques remarquables de l'application des politiques de mon ministère. Les Hautes-Pyrénées sont vraiment les meilleurs élèves. Dès ma nomination, lorsque le président de la République appelait, Jean-Claude connaît cela, pour vous proposer tel ou tel poste, j'ai souhaité que soient réunis dans un même ministère l'aménagement du territoire, la ruralité et les collectivités. En effet, si la data a bien fait son œuvre en son temps, je ne crois pas qu'aujourd'hui les méthodes quand même légèrement autoritaires qu'elle a employées, même si elle a fait un travail remarquable d'aménagement des territoires, seraient vraiment acceptées des élus. C'est la main dans la main entre les collectivités et l'État que l'on aménage le territoire dans une vision globale de politique structurante. C'est donc ce que nous avons fait, ce qui permet d'avoir réuni sous la même autorité les régions, les départements, les métropoles, les communes, les intercos, et d'avoir donc des politiques structurantes que nous pouvons mener ensemble la main dans la main. Moi, je ne veux plus, et c'était tout le sens de cette démarche, que l'on oppose la ville à la campagne, que l'on oppose les urbains et les ruraux. Les ruraux étant en permanence en train de dire que tout l'argent de l'État allait vers les grandes agglomérations et les urbains pensant exactement la même chose quand ils regardaient comment l'État s'impliquait dans la ruralité. Il faut au contraire que tout cela se passe la main dans la main, en osmose, en complémentarité, et c'est tout le sens d'ailleurs, lorsque je passe des pactes avec les métropoles, tout le sens de ce que nous appelons les contrats de réciprocité, qui nous permettent chaque fois qu'un pacte est signé, donc de demander et de conseiller, j'ai failli dire d'obliger, mais c'est un peu comme cela que je le pense, les métropoles à contractualiser avec des PETR ou de grands EPCI voisins. En Occitanie, la métropole de Toulouse a contractualisé avec le pays Porte de Gascogne, cher à Raymond Val, et je pense que c'est non seulement une excellente chose, mais que c'est un magnifique exemple également que cette contractualisation. J'ai parlé de contrats. Nous sommes dans des politiques contractuelles. Nous sommes dans des politiques contractuelles avec les régions, au travers des pactes État-région que sont les contrats de plan. État-région que je suis en train de renégocier, nous en avons presque terminé, puisqu'à partir du moment où l'on fusionne les régions, elles étaient 22, elles sont 13, il a fallu mettre en harmonie également les contrats de plan, par exemple Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Nous sommes dans la contractualisation avec les pactes État-Métropole, nous sommes dans la contractualisation avec les contrats de ville, nous sommes dans la contractualisation avec les contrats de ruralité. Ces contrats de ruralité qui ont été créés lors du comité interministériel ruralité qui s'est déroulé à Privas en Ardèche au mois de juin. Nous avons voulu, vous l'avez dit madame la préfète, que en pendant les contrats de ville, il y ait aussi les contrats de ruralité. Soit dit en passant, ce comité interministériel de ruralité était le troisième en 14 mois sur la ruralité quand les SIAP, qui étaient les comités interministériels d'aménagement du territoire, dont les prédécesseurs des comités interministériels de ruralité, ont été réunis deux fois en 10 ans. Nous en avons fait 3 en 14 mois. Nous avons arrêté 104 mesures et fixé un certain nombre de priorités qui ont d'ailleurs été rappelées ce matin. La première, c'est bien naturellement les services publics dans le monde rural, dans la montagne et dans les zones les plus reculées, voire les plus isolées. Nous avons, après tant d'années, ou de droite comme de gauche, on a entendu dire qu'il était terrible de voir les services publics déserter ces zones-là. Nous avons apporté la réponse avec les maisons de services au public. 1100 sont aujourd'hui réalité. La moitié, avec la poste, et de mon point de vue, c'est la meilleure des formules, quand on peut le faire, parce que ça vous garantit aussi la présence, la pérennité de la présence postale. Dans les Hautes-Pyrénées, vous en avez déjà réalisé 4. Je sais que 2 ou 3 sont aussi en discussion. Nous avons là ramené les services publics sur l'ensemble des territoires. Alors certes, de manière différente, ce n'est pas les services publics d'autrefois avec un fonctionnaire, un agent derrière chaque guichet. Mais nous sommes dans la réalité du monde moderne. Cela repose beaucoup sur les échanges numériques, mais elle remporte ces maisons de services publics. Un succès extraordinaire pour peu que les élus et l'État, donc madame la préfète et le sous-préfet ruralité que je salue également, fassent le nécessaire pour que le plus grand nombre possible de services publics s'installent dans ces maisons de services au public. J'ai inauguré une maison de services au public dans les Hautes-Alpes, il y avait 31 services publics. 31 services publics. La base, naturellement, est en CEP, mais on doit, de manière permanente, essayer d'amener de nouveaux services publics. J'en ai même trouvé où il y avait des antennes du tribunal d'instance ou des antennes de la sous-préfecture. Certaines ont même accueilli des infirmières libérales qui s'occupent des soins à domicile. Il faut que ces maisons soient ouvertes à tous les services qui est en droit d'attendre le public. Ces maisons sont un succès et nous sommes fiers d'avoir réussi à ramener le service public sur l'ensemble du territoire. La seconde priorité de ces politiques d'aménagement du territoire, vous les avez évoquées également ce matin, c'est pour cela que je disais que nous avons là une démonstration formidable des politiques menées par mon ministère. Ce sont les maisons de santé pluridisciplinaires, l'offre de soins de proximité. Il se trouve qu'aujourd'hui, pour des raisons diverses, il est difficile d'installer des jeunes médecins dans la ruralité, dans la montagne et dans les zones les plus enclavées ou les plus reculées. Certains pensent que cela n'est dû qu'au fait que ces zones sont justement telles que je viens de les décrire. Il y a également un autre phénomène qui joue. C'est que le médecin de campagne, tel qu'on le connaissait autrefois, taillé avec corvéable à merci, 24 heures sur 24, 365 jours par an, ce n'est plus l'approche des jeunes dans la médecine. Il connaissait tout le monde, à tel point qu'il était souvent conseiller du canton, voire au-delà. Mais aujourd'hui, la vision des jeunes médecins n'est pas la même. Nous avons donc créé ces maisons de santé pluridisciplinaires. Là également, il y en a 1000 qui sont déjà installées. Marisol Touraine a demandé aux jeunes médecins, étudiants, s'ils accepteraient que des bourses leur soient versées pour s'installer dans la ruralité. La réponse a été positive. 1400 bourses ont déjà été passées. Elle a également, d'ailleurs, l'ami de la santé, accepté de desserrer le numerus clausus dans les zones les plus défavorisées. Nous avons là également un succès sur la deuxième priorité qui est celle des territoires. Après le service public, c'est naturellement le service de santé. Et là encore, je crois que nous avons œuvré dans la bonne direction quand on voit qu'en seulement 18 mois, 1000 maisons de santé ont été installées. Les troisième et quatrième priorités, on peut les lier d'une certaine manière, elles ont été évoquées aussi tout à l'heure, c'est l'action numérique. Il n'est pas acceptable de voir qu'il y a aujourd'hui une fracture numérique entre la ville et la campagne, entre les zones défavorisées et les zones urbaines. Certes, lorsque l'État a discuté en 2004, en particulier, la vente des fréquences aux opérateurs, il a remarquablement mené, il faut le dire, la discussion budgétaire et les a vendues très cher. Sauf que, dans le même temps, on a oublié de leur imposer un cahier des charges. Du coup, bien naturellement, ce ne sont pas des philanthropes. Ils sont allés s'installer dans l'urbain et ils ont délaissé la ruralité. Il a donc fallu que, là encore, l'État s'engage au travers du plan France très haut débit, doté de 20 milliards d'euros, donc 3,3 milliards portés par l'État. La main dans la main, Monsieur le Président, que j'ai oublié de citer, de saluer tout à l'heure, pardon Michel, la main dans la main avec les départements au travers des schémas départementaux d'aménagement numérique, nous sommes en train de rattraper le temps perdu, même si je sais que tout n'est pas parfait encore, mais nous sommes en avance sur le rythme que nous nous étions imposés quant à ces réalisations et à ces installations. Je crois que là encore, les choses avancent dans la bonne direction, mais c'est tout à fait indispensable. Nous vivons à l'époque de la dématérialisation. Il n'est pas pensable qu'au-delà des échanges que l'on peut avoir avec sa famille sur le net, il n'est pas pensable que l'on n'ait pas cet outil qui est indispensable au travail, y compris dans la ruralité et y compris pour les agriculteurs. La quatrième priorité, c'est la téléphonie mobile, où le commentaire est le même. Lorsque l'on nous raconte qu'il n'y a pas de zone blanche parce que les calculs sont faits de telle manière, 300 mètres autour de la mairie, 4 mètres de hauteur. J'en profite pour dire d'ailleurs que l'ARCEP, qui est l'organisme indépendant auquel je l'ai demandé, va bientôt, dans les 2 mois qui viennent, sortir des cartes tout à fait précises de la réalité de la situation et nous pourrons donc œuvrer de la meilleure manière. Mais là encore, la main dans la main avec les collectivités, nous œuvrons pour réduire la fracture téléphonique. Alors, parfois, les plus anciens me disent « Oui, mais il n'y a pas si longtemps que ça. » Oui, c'est vrai. Moi, quand j'étais jeune député, j'avais au moins 3 ou 4 personnes sur 10 dans mes permanences qui venaient me voir pour obtenir le téléphone à la maison. Il fallait 3 ans d'attente. Mais nous ne sommes plus dans ces périodes-là. Aujourd'hui, les gens sont plus exigeants. Les jeunes considèrent qu'ils sont nés avec un téléphone portable dans leur landau. Il faut donc répondre à ces attentes. Je crois que les services publics, l'offre de soins à proximité, le numérique et la téléphonie mobile sont bien les 4 priorités et c'est les priorités que nous avons choisies pour porter nos politiques d'aménagement du territoire. Nous les déclinons donc au travers des contrats de ruralité qui reprennent de manière beaucoup plus vaste que les simples sujets que je viens d'évoquer. Je le répète, il y a 104 mesures, mais je n'allais pas quand même devant vous présenter les 104 mesures. Beaucoup vont être abordées. La revitalisation des centres-bourgs, la maîtrise de l'eau, l'offre de logement, le commerce de proximité. Et je pourrais allonger la liste à la vie. Tout ça est financé dans le cadre des contrats de ruralité qui sont, je le crois, une bonne réponse aux problématiques que nous avions dans la ruralité. Il est vrai, ça a été dit par le président du conseil départemental, que l'on peut considérer que pendant quelques années, on avait l'impression que la ruralité était plutôt oubliée. Aujourd'hui, nous avons des politiques en faveur de la ruralité qui sont performantes, qui sont efficaces et qui sont nombreuses et multiples. Alors vous me direz-vous, c'est bien beau d'avoir des politiques, mais encore faut-il les financer. Eh bien oui, nous les finançons. Alors, je reconnais, et ça a été évoqué aussi, on a demandé beaucoup d'efforts aux collectivités ces dernières années. Tout cela parce que un ancien Premier ministre, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment d'ailleurs, avait quand même reconnu que la France était en faillite. Nous avions en 2012 le choix de continuer dans cette direction et de subir le sort de la Grèce ou du Portugal ou de redresser les comptes publics. C'est le choix qui a été fait par le président de la République, avec succès en l'occurrence, puisque le déficit public était de 5,5% en 2012, il est tombé en dessous de 3% aujourd'hui, avec d'ailleurs, en même temps et dans le même temps, un certain nombre de clignotants révélateurs de la meilleure santé de l'économie française. Mais il fallait bien entendu, même si ces efforts ont été faits et bien faits avec opiniâtreté par les collectivités, qui en ont profité souvent pour remettre de l'ordre dans leur budget de fonctionnement, ce qui leur a permis de retrouver des capacités d'action financière, il fallait accompagner tout cela. Et là encore, nous l'avons fait dans des proportions, je crois, jamais atteintes, avec la DETR qui a été augmentée de 62% en 3 ans, avec la création du Fonds spécial d'investissement local qui est porté par mon ministère, qui a été créé l'an dernier, en 2016, doté de 1 milliard, comme la DETR, qui a été non seulement reconduit dans les annonces que le président de la République est venu faire au Congrès des maires, lorsqu'il a dit que finalement, justement parce que nous sommes retombés en dessous de 3% de déficit public, l'effort des collectivités qui devait être pour la dernière année en 2017 de 2 milliards ne serait que d'un milliard, ce qui laisse quand même 1 milliard supplémentaire dans les caisses des collectivités. Mais il a également annoncé que le FSIL serait abondé et porté à 1 milliard 2. D'ailleurs, j'ai regardé ce que ça donnait pour les Hautes-Pyrénées. Je vois quand même qu'en 2017, entre le FSIL et la DETR, c'est 16 millions d'euros, madame la préfète, à votre disposition, une augmentation de 16%. Je pense que c'est une bonne chose, et ce d'autant plus que nous avons choisi de déconcentrer tout cela auprès des préfets. J'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait d'appel à projet. Je n'ai rien contre l'appel à projet, mais mon expérience maintenant ancienne d'élu local m'a quand même démontré que les appels à projet, c'est long, c'est complexe, c'est un parcours du combattant, et que de surcroît, si, mais je sais que tu n'es pas d'accord, et que de surcroît, si on n'a pas une ingénierie territoriale minimum, eh bien ça devient mission impossible. Nous avons donc choisi, au-delà des appels à projets qui fonctionnent bien quand ils fonctionnent, nous avons donc choisi, pour faire plaisir à Michel Pélieux, nous avons donc choisi, en ce qui nous concerne, de déconcentrer auprès des préfets de région, qui eux-mêmes travaillent et déconcentrent auprès de leur préfet département. J'ai fait nommer un sous-préfet ruralité dans l'ensemble des départements, et là, nous retrouvons la proximité qui m'est chère, et je sais qu'elle est chère également aux élus ruraux, qui peuvent, avec leur préfet, avec leur sous-préfet, préparer non seulement les contrats de ruralité, mais regarder ce à quoi ils ont droit sur l'ensemble de ces enveloppes. La DETR, vous la connaissez bien. Sur le FSIL, j'ai fléché 600 millions pour la ruralité sur le milliard 2, donc 216 millions pour les contrats de ruralité, ce qui fait que nous avançons remarquablement, parce que voilà quand même une décision qui a été prise au mois de juin. Là encore, cette fois j'espère que Michel ne me contredirait pas, là encore, on regrette souvent la lourdeur et la longueur de l'instruction des dossiers. Nous avons décidé les contrats de ruralité lors du CIR, je le répète, du mois de juin dans l'Ardèche. Aujourd'hui, 120 sont déjà signés, 400 le seront à la fin du premier trimestre. Il n'y a pas un département où de nombreux contrats de ruralité ne soient pas déjà élaborés ou en voie d'élaboration. C'est un succès tout à fait remarquable, et j'ai la faiblesse de penser que c'est un succès parce que naturellement ça répond à une demande et à une attente. C'est un succès parce que nous avons mis les financements en même temps que la décision. On n'y est pas tout à fait toujours habitué de la part de l'État, mais c'est un succès aussi parce que c'est déconcentré et que donc les élus peuvent travailler. Ça a d'ailleurs été souligné ce matin avec leur sous-préfet, avec leur préfet, pour construire ces contrats de ruralité. Et moi, je suis très heureux de voir que finalement, quand en 2014, le gouvernement a lancé les assises de la ruralité, eh bien, nous sommes, en cette fin de quinquennat, sur des traductions pratiques tout à fait remarquables, efficaces, et qui sont une grande réussite, comme chez vous ce matin, dans les Hautes-Pyrénées, puisque c'est quand même l'ensemble des départements, et là aussi, c'est exceptionnel. Généralement, je signe un contrat de ruralité à tel endroit ou tel endroit. Mais en dehors de Montagne-et-Garonne, c'était quand même bien la moindre des choses, monsieur le directeur de l'État et moi, c'est le seul département totalement couvert par des contrats de ruralité. Je salue et remercie la région d'être à nos côtés. Lorsque j'ai négocié, toujours dans le cadre des discussions contractuelles, avec les présidents de région, la clause de revoyure, je le disais tout à l'heure, pour mettre en harmonie les différents contrats de plan. Et soit dit en passant, nous allons profiter quand même pour rajouter 250 millions d'euros, ce qui m'a amené d'ailleurs à signer avec Carole Delga il n'y a pas si longtemps à Toulouse le CPER Occitanie. Eh bien, j'ai questionné tous les plans de région en leur disant, nous avons initié le contrat de ruralité, est-ce que vous êtes d'accord pour venir à nos côtés sur cette politique en faveur de la ruralité, tous sans exception, quelle que soit leur couleur politique, m'ont répondu d'accord, y compris l'Île-de-France, qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser vu depuis chez nous, a aussi une zone rurale assez importante. Et je veux, au-delà de la région, remercier aussi le département qui a accepté de participer et de nous accompagner. Je le souligne d'autant plus que ça n'est pas le cas partout. Ça n'est pas le cas partout, mais quand il y a effectivement l'État, la région, le département, la Caisse des dépôts, eh bien, je crois que l'on peut arriver à faire de bien belles choses. C'est le cas ici et je ne peux que m'en réjouir. Soyez donc félicités de vous être emparés aussi fortement et aussi rapidement de ces politiques en direction des territoires. C'était nécessaire. Vous le faites de la meilleure des manières. Vous aurez encore à appréhender un certain nombre de sujets. On a parlé de la GEMAPI, bien naturellement, et beaucoup d'autres choses. Mais dans le cadre contractuel qui nous lie, et avec d'autres fonds que nous pouvons aller chercher, le FLADT, les fonds LIDER, ça a été évoqué par le président général, je crois qu'il y a là la possibilité d'un redémarrage de l'investissement des collectivités, dont je vous répète qu'il faut remonter bien loin pour voir l'État aux côtés des collectivités sur l'investissement dans de telles proportions. Donc bravo aux Hautes-Pyrénées, au Gers et aux Pyrénées-Atlantiques d'avoir, de s'être emparé de ces politiques de la meilleure des manières. Ça ne peut bien sûr que ravir le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ruralité. Je vous propose maintenant qu'ensemble, nous signions ces contrats qui vont nous rassembler et nous unir pour le meilleur intérêt de nos concitoyens des Hautes-Pyrénées et pour le meilleur intérêt de nos concitoyens d'Occitanie et de la France.